Certains cerveaux s'emballent, certaines émotions débordent, et certains corps s'épuisent à tout contenir. Audrey Kalvikowski propose des accompagnements sur mesure pour les hypersensibles, HPI et TDAH, qui veulent s'aligner sans s'abîmer. Sensation, ouverture, intuition, trois étapes clés de sa méthode pour transformer l'intensité émotionnelle et l'ébullition mentale en intuition actionnable. Partage de femmes, c'est une femme et des partages individuels et de groupe, ainsi que des ateliers et des séjours dans les Pyrénées. Parce que nos émotions nous donnent des ailes, retrouvez Audrey sur Instagram, partage de femmes 64.
Envie de doper ton cerveau sans y laisser ta peau?
Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois!
Ben, je me vois.
Ah, tu te vois!
Envie de booster ton quotidien? Tu es au bon endroit! Bienvenue dans DTC, l'émission qui remue tes méninges et stimule tes cellules.
Tu veux que je te dise ce que je vois à moi? Un type fier! Un type fort! Un type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur les pieds!
Le dimanche à 20h30 sur Pontac Radio, tu dynamises ton passage à l'action.
Tu vois tout ça, toi?
Yeah, man!
Yeah man, bonsoir à tous, Berne et Bernaise, de retour dans DTC. Et il y a deux semaines, nous avons exploré les secrets des performeurs. Je vous invite à aller l'écouter parce que ça serait un bon complément à notre émission d'aujourd'hui et à celle dans 15 jours, puisque comme je vous le disais il y a deux semaines, je vous disais que ça allait être une continuité. Et avec moi ce soir, Julien.
Bonsoir Audrey, oui. Bonsoir à tous.
Alors dis-moi Julien, est-ce que tu te souviens d'un moment au travail où tu étais tellement dedans que tu as levé la tête et 2 heures s'étaient écoulées, où tu n'avais pas vu le temps passer, où tu n'étais pas fatigué, au contraire même ça t'a réénergisé, où tu avais l'impression d'être exactement là où tu devais être au bon moment, etc.
Mais j'ai envie de dire quasi tous les jours. J'arrive au bureau entre 7h30 et 8h, je lève la tête, il est midi, je vois les gens qui vont manger et je dis « Ah, déjà !»
Voilà.
Voilà.
Et ben tu connais ta zone de génie, du coup. Voilà, tu l'as juste peut-être perdu de vue ou tu n'as pas construit le fait que tu la connais déjà. Voilà, maintenant je te le dis, toi Julien, et mon cher Patou à l'auditeur, et bien peut-être que toi, tu la cherches encore. Et quelque chose qui est sous ton nez, ben des fois c'est difficile à voir. Et ben ce soir, on va faire en sorte que toi, tu puisses...
Pourquoi tu prends l'accent belge ?
Je sais pas. Peut-être parce que j'ai envie de gaufre. Sinon, bonne nouvelle, elle existe. Et aujourd'hui, je vais t'aider à te connecter à cette zone de génie. Comment retrouver ta zone de génie pour travailler avec plaisir ? C'est le sujet de ce soir, parce que le travail n'est pas censé être une corvée. Non, c'est une idée qu'on a acceptée collectivement sans vraiment la remettre en question. Et nous, on adore remettre les choses en question dans cette émission. Donc c'est parti mon petit patou. On y va dans ton cerveau, ce qui s'allume quand tu es dans ta zone de génie.
Tout de suite, on se rend DTC dans ton cerveau.
J'aimerais bien nager tranquille. L'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça?
On explore ensemble l'océan de tes pensées dans DTC.
Qu'est-ce que t'as?
En exclusivité sur Pontac Radio.
Arrête de me coller aux nageoires!
Qu'est-ce qui se passe exactement dans ton cerveau quand tu es dans ta zone de génie? Eh bien, première chose, ton cerveau fonctionne en permanence sur un équilibre entre deux systèmes. Le système de la menace qui te met en alerte, te protège, te fait surveiller ton environnement. D'ailleurs, quelle est la partie du cerveau qui s'active?
L'amygdale.
Voilà, on le répétera jamais assez. Et le système de la récompense qui s'active quand tu fais quelque chose qui a du sens pour toi, quand tu progresses, quand tu crées. Quand tu travailles sur quelque chose qui ne te correspond pas, c'est le premier système qui domine. Ton cerveau est en mode « je dois la maintenir en vie », en gros « je dois maintenir la personne en vie ». Il consomme énormément d'énergie juste pour faire face, pour tenir. C'est pour ça que tu rentres épuisé alors que tu as l'impression de ne pas avoir vraiment travaillé ou été efficace ou productif. Parce que ton cerveau, il n'est pas programmé pour être productif. Et quand tu es dans ta zone de génie, c'est le second qui prend le relais. Parce que oui, Patou, le mode combat, c'est un passage obligé. Parce que chaque minute est une nouvelle donnée pour nos cerveaux et il est tout le temps dans l'illusion de la réalité. C'est au moment, c'est vraiment à ce moment-là que le second système, celui de la récompense, prend le relais, que quelque chose de remarquable se produit. Ton cerveau libère un cocktail neurochimique précis. De la dopamine dans un premier temps qui te donne l'élan et le plaisir de passer à l'action. De la noradrénaline qui affûte ta concentration. Mais aussi de l'anandamide qu'on appelle parfois la molécule du bonheur, qui favorise les connexions créatives, et des endorphines, oui oui, pas tout, des endorphines, qui suppriment la douleur et amplifient le plaisir. Ce cocktail, c'est ce que les chercheurs ont identifié comme l'état de flow, on en a parlé il y a 15 jours, dont on a brièvement parlé, qui s'appelle Miali, hein, qui a, je rigole sur le mot parce que c'est imprononçable son nom de famille. Vous tapez flow, vous allez trouver des informations. Si t'as manqué l'épisode, tu peux aller écouter le podcast parce que vraiment ça va te donner plus d'informations, mon petit patou. Donc Merci Julien, ça démarre fort, on a 30 minutes ensemble, il faut que je me concentre. Allez, je me ressaisis mon cher Patou. Ce psychologue qui a passé sa vie à étudier l'expérience optimale a montré que cet état se produit quand le niveau de défi d'une tâche correspond exactement à ton niveau de compétence. Je répète, cet état se produit quand le niveau de défi d'une tâche correspond exactement à ton niveau de compétence. Ni trop facile, ni trop difficile, dans la zone juste entre l'ennui et l'anxiété finalement, la peur. Et dans cet état, ton cerveau est littéralement différent, d'accord ? Il va gérer l'autocritique, le doute, la surveillance sociale, il va se mettre en veille et c'est ce qu'on appelle l'hypofrontalité transitoire. Communément, c'est le moment où tu n'es plus dans ta tête, tu es dans l'action. Voilà, et c'est un passage très agréable. La théorie de l'autodétermination de Desi Ryan, deux chercheurs américains qui ont consacré 40 ans à étudier la motivation humaine, nous dit que pour être intrinsèquement motivé, donc de l'intérieur, tu as besoin de trois choses, mon petit patou. Toujours trois, c'est génial ce chiffre. L'autonomie, sentir que tu as le choix de comment tu fais les choses. La compétence, sentir que tu progresses, que tu maîtrises. Et le lien, sentir que ce que tu fais a un impact sur les autres. L'autonomie, la compétence et le lien. Et quand ces trois besoins sont satisfaits, eh ben la motivation vient de l'intérieur. Elle ne dépend plus d'une prime, d'une validation extérieure ou d'un chef qui surveille. Hein, Julien, arrête de me souffler le chrono à l'oreille. Elle est là à l'état naturel. Ta zone de génie, c'est l'endroit où ces trois conditions sont réunies. Dans tes cellules, de suite, on va voir ce que ta famille t'a appris sur le travail.
Parfois, agir, c'est difficile. Et tu ne te reconnais pas.
Vous me reconnaissez soi.
Non, ne vous reconnaissez pas.
DTC, c'est aussi dans tes cellules. Et tes ancêtres y sont peut-être pour quelque chose. DTC, en exclusivité sur Pontac Radio, avec Audrey Kalvikovski.
Alors toujours notre petit zoom en arrière pour les patous qui aiment comprendre jusqu'à la moelle et qui aiment connaître l'origine des choses. Ta façon de te rapporter au travail, elle ne commence pas avec ton premier emploi. Elle commence dans la cuisine de ton enfance, autour de la table familiale. Ou ailleurs, hein, mon patou, tu te souviens, tes parents sont pas les seuls responsables de nos VDM. Pour ceux qui n'ont pas la rêve...
Vie de merde.
Bien. Notre rapport au travail a donc commencé dans les phrases entendues 1000 fois sans même qu'on y fasse attention. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur le travail quand tu étais petit ? Par exemple, le travail, c'est pas censé être agréable. C'est pour ça qu'on appelle ça le travail. On n'est pas là pour s'amuser. T'as de la chance d'avoir un emploi stable, de quoi tu te plains ? Ou au contraire, fais ce qui te passionne et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. De poids de bien choisir son travail du coup derrière. Et il y a un temps pour s'amuser et un temps pour travailler, comme si ces deux choses ne pouvaient pas s'entrecroiser. Ces phrases, elles ont construit ta relation au travail, mon petit patou. Et elles pilotent grandement tes choix aujourd'hui. Oui, oui, oui. Alors, la première chose à regarder, c'est les transmissions transgénérationnelles sur l'effort. Tes grands-parents, pour beaucoup, ont grandi dans une époque où le travail était une question de survie. Ah, il faut mourir au travail. On ne choisissait pas son métier en fonction de ses passions, ou très rarement. On prenait ce qu'il y avait et on s'estimait heureux. Cette réalité a généré un script familial très puissant. Le plaisir au travail, c'est un luxe, Pollux. Pas une nécessité, voire quelque chose de suspect. Si toi, aujourd'hui, tu culpabilises quand tu prends du plaisir à ce que tu fais, demande-toi qui dans ta famille n'avait pas ce droit-là ? Qui a le droit ? Tu l'as pas ? Oh.
Je sais pas si c'est bien senti de chanter du fan Patrick aujourd'hui. Hein.
Deuxième angle de vue, les injonctions sur le mérite et la légitimité. Dans certaines familles, on ne valorise que certains types de travail, les métiers intellectuels, les métiers manuels. La sécurité de la fonction publique, l'entrepreneuriat comme folie des grandeurs, ces hiérarchies familiales invisibles, elles créent des zones interdites dans ton espace professionnel. Tu n'oses pas te lancer dans ce qui te passionne vraiment parce que quelque part, ça ne correspond pas à ce que ta famille considère comme un vrai travail. Troisième point d'observation, le concept de loyauté invisible, on en parle assez ici, théorisé par le psychanalyste Ivan Bosormenieu, je ne sais pas où c'est qui dormait ces gens-là, mais vraiment pas dans le Béarn en tout cas. On reste parfois, c'est tellement plus simple, des Cazenaves, c'est vrai ici, c'est quoi
Abadi, Cazenave,
voilà, c'est simple, voilà, on reste parfois dans des situations professionnelles insatisfaisantes par loyauté inconsciente envers notre famille. Si personne avant toi n'a osé choisir le plaisir au travail, t'autoriser à le faire peut être vécu intérieurement comme une trahison. Comme si tu te plaçais au-dessus d'eux. La question à te poser n'est pas « Est-ce que j'ai le droit de travailler avec plaisir ?» La vraie question c'est « Qui est-ce que j'ai l'impression de trahir si je réponds oui à ce plaisir au travail ?» Allez, un petit bottage de cul, trois exercices pour identifier ton génie. C'est parti.
Tu en as plein le cul ? Besoin d'une pause pour y voir plus clair ? Dans DTC, on pose ensemble nos derrières pour assurer nos arrières. Et c'est OK. DTC, c'est aussi dans ton cul.
Dans ton cul.
Et c'est en exclusivité sur Pontac Radio.
Allez, Patou, on passe aux choses concrètes. Parce que la zone de génie, bah, c'est quelque chose d'identifiable et non un concept flou réservé à Leonardo le peintre ou Einstein le mathématicien ou encore à Socrate le philosophe. Hein. C'est du précis et ses outils pour l'observer et le trouver existent. En numéro 1, on a le test des forces, le VIA. Et je t'invite de Martin Seligman, le père de la psychologie positive, et son équipe ont identifié 24 forces de caractère universelles, des qualités comme la créativité, la curiosité, le leadership, la prudence, l'humour, la persévérance, l'amour de l'apprentissage, pas tout. Oui, on peut aimer apprendre. Et ce qui est fascinant, c'est que nous avons toutes et tous ces 24 forces, mais dans des proportions différentes, bien évidemment. Tes 5 premières forces, c'est là que se trouve ton génie naturel, ce que tu fais bien sans effort, ce qui te recharge plutôt que te vide. Et bien pour l'avoir fait, c'est assez impressionnant. Plus de 7 ans après, c'est encore ces 5 forces sur lesquelles je m'appuie et je reviens régulièrement en me disant oh, punaise quand même, j'ai construit autour de ça et c'est vraiment génial. Le test est gratuit, il est en ligne, VIA Character Stranger, on vous le mettra sur les réseaux, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et il prend 20 minutes, sache-le mon petit patou, parce que ça peut être long quand même. Hein. Exercice numéro 2, la méthode des pics d'énergie pendant une semaine. Juste une semaine mon petit patou, ça suffit. Note chaque soir 2 ou 3 moments de ta journée où tu t'es senti particulièrement vivant, efficace, absorbé par ce que tu faisais, et pas qu'en faisant l'amour, s'il te plaît. Et note aussi les moments où tu t'es senti vidé, ennuyé ou en résistance. À la fin de la semaine, tu vas avoir un tableau, un vrai tableau de bord de ta zone de génie, et tu verras des patterns, des récurrences, des activités qui reviennent systématiquement dans tes pics d'énergie. C'est une donnée concrète sur ton fonctionnement réel et c'est bien plus appréciable pour ton cerveau qui déteste les zones d'ombre, de flou et d'imprécision. Et enfin, le troisième, la question du génie naturel. Pose cette question à 5 personnes qui te connaissent. Donc, pose cette question-là que je vais te poser, tu comprends.
C'est
à 5 personnes qui te connaissent bien, dans des contextes différents. Famille, collègues, amis, conjoints, essaie de brasser un petit peu le monde. D'après toi, c'est quoi la chose que je fais le mieux que la plupart des gens sans même m'en rendre compte? Qu'est-ce que je fais de mieux que la plupart des gens sans même m'en rendre compte? Bon, ben, tu auras quelques zones d'éclaircissement ou en tout cas de quoi sublimer ta zone de génie. C'est une question qui est redoutablement efficace parce que notre zone de génie est souvent tellement naturelle pour nous qu'on ne la voit plus. On pense que tout le monde fait ça aussi bien alors que non. Et ça s'appelle le syndrome de l'expert, mais je ne vais pas m'étendre ici. Allez, on va aller dans ton corps, les signaux physiques qui te disent que tu y es là, dans ta zone de génie.
Dans DTC, on ouvre aussi la porte à ton physique.
La porte à cette idée,
mais tire ! Place à la session dans ton corps sur Pontac Radio. Pontac
Radio. Ton corps sait avant toi. Ton corps, lui, il sait avant toi. Vraiment, lorsqu'on ose lui faire confiance, c'est infiniment magique la source informationnelle qu'il représente. Avant que ton mental... Avant que ton mental ait analysé, rationalisé, validé ou rejeté, ton corps a déjà sa réponse. Et la zone de génie, eh ben, elle a une signature physique très précise et compte sur moi pour te la délivrer ce soir. Apprendre à la reconnaître, c'est un outil de navigation extraordinaire. J'arrête de te le teaser, on y va. Voilà ce qui se passe dans ton corps quand tu es dans ta zone. Ta respiration s'allonge et s'approfondit naturellement. Ta posture s'ouvre, les épaules se dégagent, la poitrine s'écarte, le menton se lève légèrement. Tes mains bougent plus, comme moi quand je te fais cette émission, je suis en train de bouger mes mains dans tous les sens. Ta voix devient plus assurée, plus posée, et tu ressens souvent une chaleur au centre du thorax, ce que certains aussi, dans le jargon, on appelle le oui du corps. A l'inverse, lorsque tu fais quelque chose qui ne te correspond pas, ton corps te le dit aussi. Tension dans la nuque, mâchoire serrée, estomac contracté. Fatigue inexpliquée comme un coup de massue, envie de regarder ton téléphone toutes les 10 minutes. Ces signaux ne sont pas anodins, ils sont des données qui peuvent éviter le crash mental. La neuroscientifique Candace Pert a montré dans ses travaux sur les neuropeptides, c'est bref, je vous le dis, que nos émotions ont une réalité chimique et physique dans tout le corps, pas uniquement dans le cerveau. En gros, elle a observé le lâcher émotionnel, savoir s'il y avait des émotions qui créaient chimiquement des molécules néfastes pour le corps et inversement. Elle appelle ça les molécules de l'émotion. Ton corps est littéralement un second cerveau émotionnel. Alors, petit exercice, la prochaine fois que tu dois prendre une décision professionnelle, une mission à accepter ou à refuser, un projet à lancer ou pas, avant de réfléchir, ferme les yeux 30 secondes et scanne ton corps. Où est la tension? Où est l'ouverture? Où est le oui? Fais confiance à cette information, elle est souvent plus honnête que ton mental. La question que peut-être tu te poses, Patouf, parce qu'on me la pose souvent, mais alors tellement souvent. C'est quoi la différence entre le non du corps et le stop de la peur? Et oui, puisque la peur paralyse, on le sait. Parce que oui, ton corps peut dire non pour deux raisons très différentes. Et apprendre à les distinguer, c'est peut-être l'une des compétences les plus précieuses que je vais te délivrer ici. Le non de l'alignement, c'est celui qu'on vient de décrire. Tension, fermeture, fatigue, fuite. Ton corps te dit, ce n'est pas pour toi, ce chemin-là ne correspond pas à ce que tu es profondément. Et le nom de la croissance, lui, il ressemble à autre chose. Il ressemble à un peu du vertige, un vertige de l'amour. Une légère accélération du cœur, à une chaleur qui monte, pas dans la poitrine, mais plutôt dans le ventre ou dans la gorge, à une envie de reculer qui cohabite avec une excitation discrète, mais bien réelle, d'avancer. Dans le jargon professionnel et en thérapie somatique, on appelle ça le seuil d'expansion. Ton système nerveux perçoit quelque chose de nouveau, de grand, de potentiellement transformateur, et il active une réponse de protection. Il oublie le danger, mais il accueille l'inconnu. La différence clé, dans le nom de l'alignement, l'image de toi dans cette situation te laisse vide ou te rétrécit, et dans le nom de croissance, l'image de toi de l'autre côté, une fois que tu l'as fait, te grandit. Il y a quelque chose qui brille là-dedans, même si ça fait peur. On va aller dans ton cœur maintenant. Pourquoi tes relations t'éloignent ou te rapprochent de ta zone de génie?
L'aventure continue.
Je nouis.
Il y a du rappel-point, j'y ai blessé à la tête.
DTC, l'émission qui te permet d'écouter ce qui se passe dans ton cœur. En exclusivité sur Pontac Radio.
Ta zone de génie, elle ne s'épanouit pas dans le vide. Elle a besoin d'un environnement relationnel pour se déployer, ou elle se ratatine comme cet environnement. Et dans cet environnement, et on l'appelle un environnement nocif, on appelle ça nocif, toxique, moi j'aime pas trop ce mot, ça me fait penser à la chanson de Britney Spears, toxique, bref. Ce qui est nocif, Patouf, pour les uns, ne l'est pas toujours pour les autres, n'est-ce pas? Hein? Et c'est là où c'est intéressant. Alors le concept de miroir social, le sociologue Charles Cooley, je suis pas sûre de bien dire mes anglais, hein, mais c'est pas grave, a théorisé ce qu'il appelle le looking glass self, le soi-miroir. L'idée est simple, nous construisons notre identité en grande partie à travers le regard des autres. Oui, ce que les autres nous renvoient de nous-mêmes, ça devient ce qu'on croit être vrai. C'est d'ailleurs pour ça, Patou, que ça ne fonctionne pas de dire « on s'en fout du regard des autres, non mais moi je m'en fiche, non. » Si tu as grandi ou si tu vis entouré de personnes qui minimisent systématiquement ce que tu fais, tu finiras par le minimiser toi-même, c'est mathématique. Et ta zone de génie deviendra une zone interdite parce qu'elle génère trop de risques d'être vu, jugé, critiqué et même de rater. Indicateurs concrets à observer après quelles conversations tu te sens plus grand et après lesquelles tu te sens plus petit. Ces deux listes te disent quelque chose d'essentiel sur les relations qui nourrissent ta zone de génie et celles qui t'en éloignent. Voilà pour ce schéma. C'est un bon tip, ça, Julien. Tu vas le faire, ce tip-là ?
Je vais m'en inspirer.
Ok. On va parler de l'ikigai. Est-ce que tu connais l'ikigai ?
Non, mais je pense qu'on va découvrir pas mal de choses là sur les 10 dernières minutes.
Exactement. Là où ton talent rencontre le sens.
Et toi ? Tu en fais quoi, toutes ces infos autour de toi ?
J'en peux plus. Je vais dormir comme une masse.
Dans DTC, on les transforme en dynamique.
On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher.
Remue tes ménages et bouge ton popotin avec DTC en exclusivité sur Pontac Radio.
L'ikigai, alors Keizako, eh bien c'est un mot japonais. C'est même un concept japonais qui se prononce ikigai. Je le fais bien.
Tu le fais.
Il me regarde dans le studio, Julien, il est dépité. Il se dit, non mais comment...
Mais on va t'envoyer comment faire un petit voyage entre le Japon, l'Asie, là-bas.
Non, pas en ce moment. Ça vient de deux termes. Iki, qui signifie la vie, et Gai, qui signifie la valeur, la raison. Et littéralement,
la raison de vivre.
La raison de vivre. Et contrairement à ce qu'on voit souvent sur les jolis visuels Instagram, l'ikigai n'est pas un concept réservé aux grandes questions existentielles. Non, non, non. Ce n'est pas une promesse de carrière parfaite. C'est quelque chose de beaucoup plus quotidien, de beaucoup plus humble et de beaucoup plus puissant. Dans la tradition japonaise, notamment à Okinawa, l'île au centenaire, l'ikigai, c'est simplement ce pourquoi tu as envie de te lever le matin. Faut se lever aux aurores. Et ça peut être aussi modeste que cultiver son jardin, enseigner aux enfants du quartier ou faire le meilleur tofu du village. L'échelle n'a aucune importance, la justesse, oui. Maintenant, dans la version occidentalisée de l'ikigai, popularisée notamment par le médecin japonais Ken Mogi et par le chercheur Mark Wynn, l'ikigai se situe à l'intersection de quatre cercles. Quatre cercles. Le cercle étant le symbole de l'unité, de la cellule aussi, de ce qui permet de laisser vivre. Donc, il y a quatre cercles. Ce que tu aimes faire, ce dans quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin, ce pour quoi tu peux être rémunéré. Alors, on va la refaire doucement. Ce que tu aimes faire. Tes passions, tes centres d'intérêt, ce qui te fait vibrer. C'est le moment où tu prends le stylo, pas tout, d'accord ? Et tu écris sur ta petite feuille.
La dictée.
Donc ce que tu aimes faire, tes passions, tes centres d'intérêt, ce qui te fait vibrer. Ce dans quoi tu es doué, tes talents naturels, tes compétences, ce que tu fais mieux que la plupart des gens. Que la plupart, ça ne veut pas dire que tu es le seul à le faire. Attention, n'allez pas chercher le truc que personne ne fait. Ce dont le monde a besoin. Les problèmes que tu peux résoudre, les manques que tu peux combler, la valeur que tu peux apporter, ce dont le monde a besoin. Et ensuite, ce pourquoi tu peux être rémunéré, la dimension économique et viable de ce que tu offres au monde. Et à l'intersection de ces quatre cercles se trouve ta zone de génie professionnel, ton ikigai. Et oui! Ces quatre cercles se superposent rarement parfaitement du premier coup. Et c'est cohérent. L'ikigai n'est pas une destination ou une direction à suivre. C'est un processus, un alignement progressif et réajustable avec le monde. Et quand tu comprends ça, ben tu deviens hyper puissant. Parce qu'en fait, moi, par exemple, mon ikigai, au milieu, c'est la transmission. C'est la transmission. Et en fait, je peux transmissionner comme je veux. Du coup, je peux faire de la radio, je peux faire du coaching, je peux faire de la formation, je peux faire ce que je veux. Alors, regardons ce qui se passe quand deux cercles se recoupent sans les deux autres. Tu aimes ce que tu fais et t'es doué dedans, mais le monde n'en a pas besoin ou tu ne peux pas générer de l'argent pour répondre à tes besoins vitaux. Et bien là, tu ressens de la passion et de la satisfaction, mais une certaine inutilité. Une frustration, je te renvoie il y a deux semaines sur l'émission de la frustration, de ne pas contribuer vraiment à l'évolution du monde. Deuxième situation, tu es doué et le monde en a besoin, mais tu n'aimes pas ça. Tu peux générer de l'argent pour répondre à tes besoins vitaux, mais vraiment tu n'aimes pas ça. Eh bien confortablement, peut-être, mais tu te lèves sans enthousiasme. Tu fais bien ton travail, mais tu t'ennuies profondément. Troisième situation, tu aimes ça, le monde en a besoin. Mais tu n'es pas encore assez compétent pour générer de l'argent pour répondre à tes besoins vitaux. Tu as de la mission, tu as de la passion, mais pas encore la maîtrise ni la reconnaissance économique. C'est souvent là que se trouvent les gens en début de reconversion. Et tu peux aussi générer de l'argent pour répondre à tes besoins vitaux. Tu constateras que je ne dis pas tu peux en vivre, ça m'agace. D'accord ? Je repense à chaque fois à Coluche qui dit mais ta vie, tu l'as gagnée. Donc on ne gagne pas sa vie, tu n'as pas à vivre, enfin à travailler pour vivre, mais tu peux générer de l'argent. C'est quand même bien mieux de dissocier. Donc tu peux générer de l'argent pour répondre à tes besoins vitaux. Le monde en a besoin, mais t'es pas doué et tu n'aimes pas ça. Voilà. Alors là, c'est le vide intérieur, hein, le sentiment de passer à côté, hein, mon petit patouet, de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Reconnaître dans quel espace tu te situes aujourd'hui, c'est déjà une information précieuse, parce qu'on ne résout pas le même problème selon l'endroit où ça se trouve. Maintenant, comment on travaille concrètement à construire son ikigai ? Ben, la première étape, c'est de cartographier honnêtement. Tu prends une feuille, quatre colonnes ou quatre cercles. Hein, tu tapes Ikigai sur Internet, tu vas vite trouver un schéma type. Tu remplis honnêtement, pas ce que tu penses que tu devrais répondre, ce qui est vrai pour toi aujourd'hui. Hein, d'accord ? Tu es honnête avec toi-même, sinon tu ne vas pas avancer. La colonne 1, qu'est-ce que j'aime faire tellement je le ferais gratuitement ? Quand ma fille m'a dit, maman, tu ferais quoi si le coaching n'existait pas ? Je me suis dit que je l'inventerais, donc je le ferais gratuitement. Colonne 2, qu'est-ce que les autres viennent me demander parce qu'ils savent que je le fais bien ? Ou en tout cas, qu'ils croient que je le fais bien. C'est souvent sur la parentalité, voilà. En tout cas, en apparence. La colonne 3, quel problème autour de moi est-ce que j'ai envie de résoudre ? Ben, moi, j'ai envie que les enfants ils soient joyeux. Alors du coup, ben, je fais tout pour que les enfants ils soient jolis, les parents ils soient joyeux, quand les enfants, du coup, ils soient joyeux. Colonne 4, pour quelle activité est-ce que j'ai déjà été ou pourrais-je être rémunérée ? Voilà, alors t'évites de me dire cascadeur si t'es pas cascadeur. Maintenant, si t'es charpentier, on peut s'arranger. Cherche les recoupements, les mots qui reviennent, les thèmes communs. C'est là que commence l'ikigai. La deuxième étape, c'est le test du temps. Le chercheur en bien-être au travail, Alex Pang, a montré dans ses travaux sur le reste et la productivité profonde que les personnes dans leur Ikigai travaillent en moyenne 4 heures par jour en concentration maximale et produisent autant, voire plus, que ceux qui s'acharnent 8 ou 10 heures sur les tâches désalignées. D'ailleurs, il y a un livre sur les 4 heures par semaine, très remuant, mais je vous le conseille quand même. Donc, en gros, 4 heures par jour productif et dans son Ikigai vaut mieux que 8 heures par jour et 7 jours par semaine. 4 heures de génie, donc, valent mieux que 10 heures de survie. Alors, pose-toi cette question. Dans ma semaine actuelle, combien d'heures suis-je vraiment dans ma zone de génie ? Et si la réponse est moins d'une heure par jour, bah, y a un chantier à ouvrir, pas tout. Hein. Voilà. Et pas forcément, et même surtout pas, tout changer d'un coup. Hein. Tu vas commencer à accompagner tout doucement, une dose par une dose, progressivement surtout. Troisième étape, la permission de commencer petit, comme je disais, un pas après l'autre. On évite la grande révolution. Et voilà pour ce soir. Alors du coup, mon petit Julien, l'ikigai, qu'est-ce que t'en penses ?
Je trouve que ça me rassure énormément. Je connaissais pas, mais je suis là où il faudrait que je sois.
Exactement. Finalement, l'ikigai, c'est oser un simple pas vers le degré de plus qui va vous apporter de l'alignement, parce qu'à vouloir grimper des montagnes pieds nus, mon petit patou, en espérant que la vue là-haut sera magnifique, tu vas y laisser ta peau et tu prends le risque de n'y trouver que l'épuisement, sans même avoir savouré le chemin pour y parvenir et te rendre compte que le véritable chemin ne tient qu'à 20 cm au-dessous de ton cerveau, le cœur. Parce que l'ikigai, c'est pas une arrivée, c'est un chemin vers soi pour apprécier les directions choisies pour soi, pour les autres et pour la terre. Et la bonne nouvelle, c'est que le simple fait de marcher vers toi, ben, change déjà tout. La façon dont tu te lèves, la façon dont tu travailles, la façon dont tu rentres le soir. Parce que quand tu es dans ta zone de génie, tu n'es plus en train de dépenser de l'énergie, tu en produis pour toi et pour les autres et pour le monde. Alors voilà, on arrive au bout, mon petit bétou. Hein. 3 choses à emporter avec toi cette semaine. Identifier tes forces naturelles, faire le test du VIA. Écouter ton corps, bien sûr, avant de décider le oui qui est motivant ou le oui ou le non qui stoppe. Et bien sûr, ben, la mise en route de ton ikigai, petit pas par petit pas. Et pour finir, le sens ne se trouve pas, il se construit chaque jour dans chaque choix qui nous rapproche de qui nous sommes vraiment. C'est une phrase de Viktor Frankl. Le sens ne se trouve pas. Il se construit chaque jour dans chaque choix qui nous rapproche de ce que nous sommes vraiment. Dans 2 semaines, on parlera comment réussir tout ce que tu expérimentes. Merci d'avoir écouté DTC, on se retrouve dans 15 jours. Et n'oublie pas de ne pas y laisser ta peau.
Prêt à attaquer la semaine du bon pied ?
Ce qui compte, c'est pas ce que je vois. L'important, c'est ce que tu vois toi. Alors regarde dans ce miroir et dis-moi encore ce que toi, tu vois.
Tu en veux encore ? DTC sera bientôt de retour pour booster ton énergie et continuer d'avancer.
Je vois un type
fort, fort, fort. Qui peut être très méchant quand il a la haine et qui accepte pas.
On lui marche sous les pieds.
En attendant, pour réécouter l'émission, direction le podcast sur pontacradio.fr. Vous écoutez Pontac Radio. Il est 21h. Jamais une radio ne vous a offert autant.